Des mesures pour soutenir les jeunes et leurs familles, c'est l'un des points à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Province Sud qui est réunie depuis ce matin. La rentrée scolaire, nouvelle page spéciale, nous nous intéresserons au choix de certains jeunes de suivre des cours de soutien scolaire. Graphoprint renaît de ses cendres, en grande partie détruite pendant les émeutes, l'imprimerie s'est reconstruite et même agrandie. Christopher Gigès et Claire Durieux sont allés sur place ce matin. En métropole, les gendarmes déférés devant la justice après la mort d'Amada Traoré en 2016, définitivement mis hors de cause. La Cour de cassation les a lavés de tout soupçon. Delphine Ernot, de nouveau dans la tourmente. La présidente de France Télévisions est visée par une information judiciaire pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Et puis en sport, belle journée française au JO de Milan Cortina, de l'or en biathlon et en patinage artistique, de l'argent en biathlon et du bronze en ski de bosse. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. En 2025, l'économie calédonienne a encore souffert des conséquences des émeutes de mai 2024. On connaît aujourd'hui les principaux indicateurs pour scruter cette année économique et en mesurer les évolutions. Nous reviendrons donc sur cette année économique 2025 dans un instant, dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à la fin de ce journal. Nous serons pour cela en compagnie du directeur de l'IOM, Fabrice Dufresne. Et puis cette information qui concerne le monde économique avec du changement à la tête du MEDEF. Mimsy Delea a annoncé ce matin sa démission de la présidence du syndicat patronal qu'elle préside depuis 5 ans. Décision prise après son choix de s'engager dans la campagne pour les élections municipales à Nouméa sur la liste conduite par Sonia Lagarde. Dans un communiqué, le MEDEF explique que cette démission est fidèle à ses principes de veiller à préserver une stricte séparation entre ses missions de représentation économique et tout engagement politique individuel. Les statuts du MEDEF prévoient dans ce cas-là que la présidence est occupée par le vice-président, en l'occurrence Bertrand Courte, jusqu'au terme de la mandature. Notez que Mimsy Delea sera notre invité dans le journal de 17h45 ce soir. Les élus de la province sud sont donc réunis depuis 10 heures dans la salle du conseil municipal de Nouméa. On retrouve sur place Nicolas Legrand, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Et les élus étudient notamment plusieurs textes à destination des jeunes et de leurs familles.
Oui, il s'agissait en fait de ventiler la dotation de solidarité républicaine. Et dans le cadre de cette dotation issue du prêt garanti par l'État, la province sud bénéficiera d'un peu plus de 473 millions de francs pour financer des actions ponctuelles pour l'année 2026. La priorité porte en priorité donc sur les soutiens aux familles, aux jeunes et aux actions communales. La province va par exemple attribuer 6 000 francs aux parents d'enfants scolarisés ou inscrits en crèche, soit 44 000 jeunes concernés, afin de répondre aux besoins en habillement ou en alimentation. L'aide permettra aussi le soutien au projet des associations dans les domaines de la jeunesse, des sports et de la culture. Les élus ont également décidé de maintenir le dispositif PEPRIC, le programme provincial de réinsertion citoyenne, qui est prolongé jusqu'au mois d'avril 2027. Et enfin, la province a décidé d'aider les centres de vacances et de loisirs en mobilisant une partie de cette dotation de solidarité républicaine. L'aide provinciale est revalorisée de 100 francs par jour et par enfant, passant ainsi à 560 francs. S'ajoute à cela 50 francs pour les enfants en situation de handicap. Cette séance et cette réunion de l'Assemblée de la province sud se poursuit actuellement avec un texte sur la protection du lagon, avec la mise en place d'un partenariat entre les forces armées en Nouvelle-Calédonie et les gardes nature. À la mairie de Nouméa, où se réunit donc l'Assemblée de la province sud, Nicolas Legrand, RRB.
Merci Nicolas, nous reviendrons évidemment sur cette séance ce soir dans notre journal de 17h45. En attendant, nous ouvrons notre page spéciale rentrée scolaire.
Suivez les pages rentrées avec l'As de trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Dans 4 jours maintenant, 59 782 élèves doivent retrouver le chemin des cours. Une rentrée qui s'annonce sereine et fluide, nous ont dit ce matin le vice-recteur et la membre du gouvernement en charge de l'enseignement qui étaient nos invités à 7h30. Nous en avons profité pour faire le point avec Isabelle Champmoreau sur la fermeture annoncée de plusieurs internats de la DEC.
C'est un dossier très important, donc je voudrais déjà dire quand même qu'au niveau budgétaire, toutes les collectivités, notamment le gouvernement, vont évidemment prévoir en 2026 de continuer à soutenir l'enseignement privé, que ce soit pour le fonctionnement des établissements, mais aussi pour les cantines et pour les internats. Je voudrais quand même rappeler, par exemple, que rien que la masse salariale des enseignants pour le privé, c'est 14 milliards, et c'est pris en charge, notamment, dans cette fameuse mise à disposition globale et gratuite. Donc, le soutien va perdurer. Il n'en reste pas moins que certains internats sont déficitaires, notamment au niveau de la DEC, et la DEC a choisi de faire une réforme en interne. Donc nous, notre rôle, c'est de soutenir ces établissements et de faire en sorte surtout qu'à la rentrée, c'est le travail qu'on est en train de faire, puisque la DEC nous a enfin transmis hier une liste beaucoup plus précise des élèves concernés. Donc c'est notre travail d'ici lundi et c'est l'engagement qu'on a pris de faire en sorte que toutes les familles, que tous les élèves concernés aient une solution pour lundi.
D'après les éléments que vous avez, ça devrait être possible?
Alors on voit que la DEC a déjà fait un travail interne hein, aussi sur ses propres internats et établissements. Ce sont des communes comme La Foix, Bouraille, Païta qui étaient particulièrement touchées. Donc là, il va y avoir des réorganisations internes et on va faire un point avec la DEC sur ce sujet. Je suis un petit peu plus inquiète, par exemple, sur Puebo, puisque c'est quand même évidemment une commune isolée et qu'il faut qu'on trouve des solutions particulières pour les familles qui sont sur cette commune, mais on va s'y atteler d'ici lundi.
Nous avons également parlé du coût de cette rentrée scolaire avec une aide de l'État que le gouvernement réserve à la prise en charge d'une partie du prix des cantines et du transport scolaire. Et avec le vice-recteur Didier Vindatich, nous avons parlé des usages numériques, notamment du téléphone portable dans les établissements scolaires. Des réflexions et des expérimentations sont en cours, nous a-t-il dit.
Je crois qu'il faut agir dans toutes les directions. Si on interdit tout, alors que les technologies peuvent également rendre des services à nos apprentissages, ce n'est pas la bonne solution. Donc il faut un usage raisonné de ces technologies du téléphone portable. Cela dit, il est vrai que l'on invite nos établissements à faire du téléphone portable un usage restreint. On a conduit une expérience qui aboutit cette année à une généralisation au Collège Baudoux du non-usage du téléphone pendant le temps scolaire. Les élèves placeront leur téléphone dans des pochettes hermétiques qu'ils ferment quand ils rentrent dans le collège et qu'ils peuvent déverrouiller à la sortie, et qui fait que le téléphone sera inopérant le temps pendant lequel ils sont au collège. Et donc, ils ne seront ainsi pas détournés du sérieux et de l'attention qu'ils doivent porter à leurs apprentissages.
C'est une expérimentation, on est bien d'accord. Ça veut dire qu'il y aura une évaluation qui sera faite et éventuellement ce dispositif pourrait être généralisé?
C'est une expérimentation qui a été conduite au collège. Elle est généralisée dans ce collège. Et évidemment, nous ferons une évaluation et notre idée, c'est effectivement de l'étendre plus largement.
Le vice-recteur Didier Vindatich et le membre du gouvernement en charge de l'enseignement Isabelle Champmoreau qui étaient donc nos invités ce matin. Vous pouvez réécouter cette interview sur notre site internet. Au Mont-d'Or, côté organisation, tout est prêt pour la rentrée. La mairie et les équipes enseignantes se disent mobilisées pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Et malgré l'annonce de faisant état d'une baisse des inscriptions, les effectifs restent globalement stables par rapport à l'an dernier. Nous a dit Valérie Bolo, elle est adjointe au maire du Mont-d'Or en charge de l'enseignement.
On aura à peu près 2330 élèves. L'an dernier, je crois que c'était 2300, donc c'est à peu près similaire. Faut savoir qu'on aura 3 fermetures d'école au groupe scolaire de Boulary. À La Rizière, on a toujours la problématique en cours de l'école de Lillouin, puisque vous savez qu'elle est rattachée administrativement à Ploum. Donc c'est vrai que la province sud envisage la fermeture, mais nous, ville, on souhaiterait quand même garder cette école de proximité pour que les enfants soient quand même sur place et éviter des inconvénients pour les familles. Et puis on a surtout 2 ouvertures, donc au Coccinelle et au Dauphin.
Valérie Bolo, qui est adjointe au maire du Mont-d'Or en charge de l'enseignement. Parlons toujours de cette rentrée scolaire. Et pour beaucoup de familles, c'est déjà l'heure de penser aux devoirs avec les enfants, mais aussi à la reprise du rythme, Léana Colombo.
Et pour aider les élèves à bien démarrer, le soutien scolaire séduit de plus en plus, notamment pendant les dernières semaines de vacances. Au sein de la belle école à Nouméa, les enfants peuvent revoir le programme de français, de maths, mais aussi d'anglais, grâce à des cours immersifs.
See how to make a sentence with the present simple.
I eat some chips.
I eat chips.
Rentre à Tuba en 6e. Là, on pratique le présent simple en anglais et on fait avec tous les verbes. C'est la première langue la plus parlée dans le monde. Si on apprend l'anglais maintenant et que plus tard on va dans un pays un peu anglais pour notre travail, je sais pas moi, bah au moins on sera déjà avancé.
I run with my dad.
Moi, je vais rentrer en 6e à Normandie. Le plus difficile en anglais, c'est les verbes qui changent dans des sortes de conjugaisons dans d'autres temps. Donc, je trouve ça difficile, mais ça va, faut juste apprendre par cœur.
Aujourd'hui, le soutien scolaire n'est plus uniquement réservé aux élèves en difficulté. Parents et élèves y voient un moyen de reprendre confiance et d'aborder la rentrée plus sereinement après une année scolaire 2025 perturbée. Claudia Epp est la directrice de la belle école à Nouméa.
On avait l'année dernière une année qui était un peu différente. Donc là, il y avait beaucoup plus de stages que d'habitude et surtout pendant toute la période des vacances. Donc on a commencé vraiment la deuxième semaine de janvier et jusqu'à la rentrée scolaire, les groupes ils étaient complets. Cette année, janvier était un peu plus calme. Là maintenant, on est au nombre de l'habitude. Donc il y avait beaucoup de parents qui s'inquiétaient du côté de ne pas avoir terminé ou de ne pas avoir vu tout ce qu'il fallait voir dans l'année scolaire et après la reprise dans une nouvelle classe où ce n'est pas encore tout acquis. Donc cette année, on voit une grande différence avec ça. On voit que les parents, ils sont beaucoup plus sereins par rapport à l'année dernière. Donc du coup, là, on a des révisions, mais on n'entend pas vraiment des parents, des inquiétudes en particulier.
En plus des écoles spécialisées dans le soutien scolaire, de nombreuses associations de parents d'élèves et de quartiers se mobilisent chaque année pour fournir quelques heures de soutien avant la rentrée scolaire. C'est le cas de l'association Unité CDO Coteau des Oliviers, située à Magenta.
Je m'appelle Eden et je rentre en 6e. Je suis excitée à l'idée de rentrer dans le 6e parce que quand on a été visité, ben, je trouvais ça net.
Yen Tao Edmond, je suis parent d'élève. J'emmène mes enfants ici pour l'étude. Avant de rentrer à l'école, on a commencé à faire quelques révisions. Mais voilà, on fait avec ce qu'on a pour pouvoir faire avancer nos enfants.
C'est Mika. Oui, j'aime pas trop. Quand je lis, et puis aussi, ben, quand on fait des temps que je comprends pas les maths, et puis, ben, à la maison, j'aime pas trop parce que j'ai pas envie de faire le devoir.
Tu préfères les vacances?
Oui.
Et dommage pour Mika, toutes les bonnes choses ont une fin. La rentrée scolaire est bel et bien prévue lundi prochain, le 16 février.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. La lutte contre le décrochage scolaire et la lutte contre le harcèlement sont les priorités de la rentrée 2026. Mais quel est le domaine qui est le plus important à vos yeux? Si c'est la lutte contre le décrochage, vous tapez 1. Si c'est la lutte contre le harcèlement et les violences, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, 61% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent surpris par l'ampleur des manifestations pro-palestiniennes à Sydney lors de la visite du président israélien Isaac Herzog. Ils sont 39% à dire que cela ne les surprend pas.
C'était les pages rentrées avec l'As de Trèfle. C'est la rentrée à prix mini à l'As de Trèfle. Jusqu'au 22 février, retrouvez un large choix de produits de qualité, papeterie, agenda, sacs et cartables, multimédia et livres, et votre liste scolaire est préparée gratuitement. Rendez-vous à l'As de Trèfle Magenta, quartier latin Ecoumac ou sur asdetrèfle.nc. Ouais.
Il est 11h43, on va marquer une première pause dans ce journal avant de revenir dans un instant pour voir ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La Maison du Pneu, plus de 50 ans d'expérience et de professionnalisme pour votre sécurité. La Maison du Pneu, la plus large gamme au meilleur prix pour répondre à tous vos besoins. La Maison du Pneu, une équipe de pros et des services gratuits sur nos pneus, montage, équilibrage et réparation. Et c'est comme ça dans tous nos centres de Nouméa à Koné.
Voyagez en tout confort et sécurité avec le Maridé 7 et son équipage souriant pour passer une journée inoubliable au phare Amédée. Téléphone 26 31 31, réservez votre place sur notre site web amedeeisland.com.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
En bref, notez qu'une alerte requin est en cours à l'Ilomètre. Un requin de 2,50 m a été aperçu ce matin près du ponton. L'espèce n'a pas été identifiée pour l'instant. Les services compétents sont mobilisés. Non loin de là, la baignade a été interdite pendant une heure baie des Citrons en raison de viande découverte sous l'eau et à la surface entre le MV et le filet de protection. Les pompiers sont intervenus pour tout nettoyer et l'interdiction de baignade a été levée. Et puis au large, cette fois, un banc de Cubomedius d'Australie semble se déplacer entre la passe de Dumbea et la passe de Whitoé. Le centre de coordination de sauvetage maritime a reçu plusieurs signalements. Deux surfeurs ont été piqués, une plongeuse a également été piquée au visage. Les piqûres, attention, peuvent être dangereuses, notamment en cas d'allergie. Et le centre recommande donc aux usagers de la mer d'être particulièrement vigilants. Ne pas se baigner dans le secteur, ne pas toucher les méduses. Toutes les précautions à prendre et les gestes à adopter en cas de piqûres sont à retrouver sur le site de la DAS-NC. Près de 2 ans après les émeutes de mai 2024, comment vont les entreprises calédoniennes sinistrées? Beaucoup n'ont pas tenu le choc, d'autres tentent de se maintenir, tant bien que mal. Mais c'est le constat plus optimiste, certains chefs d'entreprise parviennent à sortir la tête de l'eau. Et ce matin, le membre du gouvernement Christopher Gigès et la directrice de la mission interministérielle Claire Durieux ont visité les locaux de l'imprimerie Graphoprint. Un exemple encourageant de reconstruction, Charlotte Coulson.
C'était le 23 mai 2024, le jour où Thomas Allan a vu ses outils de production partir en fumée. 5 jeunes avaient pénétré dans l'établissement situé à Normandie et mis le feu à l'étage. Une partie du stock, la section numérique, ont été détruites. Mais les gérants n'ont pas baissé les bras. Après des mois de veille, ils ont entamé leur reconstruction en janvier 2025. Ils ont même pu démarrer l'agrandissement de l'usine, 500 mètres carrés en plus, en milieu d'année dernière. Cela a notamment été possible grâce à un dispositif de défiscalisation de la Nouvelle-Calédonie et de l'État. Thomas Allan, le gérant de Graphoprint.
Cette défiscalisation, elle était importante déjà pour la reconstruction, qui nous a permis de repasser des machines qui étaient détruites en défiscalisation, ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant, ce qui a permis de compenser le manque de l'assurance de par la dévaluation des machines ou autres, ce qui a permis une reconstruction plus facile. Après, par contre, voilà, c'était le nouveau projet qu'on a décidé d'embrayer en même temps que la reconstruction, qui lui était déjà dans les tuyaux avant les émeutes, l'agrandissement de la nouvelle production. Il y a toujours beaucoup de mauvaises nouvelles et très peu de bonnes, mais c'est vrai qu'il faut y croire. Rien n'est tout rose, mais par contre, on a besoin de se relancer, de ne pas rester attentiste. C'est important. Moi, je suis natif d'ici, donc j'ai pas envie de partir et j'ai envie que ça redevienne mieux qu'avant. Il faut vraiment se donner les moyens et puis retourner au travail, remonter les manches et retourner au travail.
Après être passé de 12 à 7 employés après les émeutes, Graphoprint a pu en réembaucher 2 l'année dernière et 2 autres emplois à temps plein doivent être créés. La reconstruction économique de la Nouvelle-Calédonie semble donc possible. C'est ce qu'ont pu constater Claire Durieux et Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie et de la fiscalité.
L'objectif, c'était de soutenir les entrepreneurs qui font le choix de reconstruire en Nouvelle-Calédonie. Cette société, elle avait été touchée par les émeutes avec des incendies. Donc, il y a eu à la fois une reconstruction et un agrandissement. À la fois, l'État et le gouvernement ont soutenu via les dispositifs de défiscalisation. Et on était à un investissement de 390 millions. Les deux défiscalisations, c'est à peu près 50% d'apport à la fois de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est montré que l'économie calédonienne repart avec des entrepreneurs qui y croient.
Et d'ailleurs, des investisseurs ont aussi visité l'entreprise ce matin.
Une cérémonie placée sous le signe de la mémoire et de l'engagement ce matin. 7 membres de l'association Témoignages d'un passé ont été décorés par le haut-commissaire Jacques Billan. Parmi eux, le président Yves Mermoud. Ils ont reçu la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif échelon bronze en reconnaissance de leur travail de transmission de l'histoire calédonienne. De son côté, Jacques Astakoff s'est vu remettre la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. L'actualité dans la région, c'était le moment fort de la visite officielle que le président israélien effectue depuis quelques jours en Australie. Yitzhak Herzog a rencontré au Parlement fédéral à Canberra le premier ministre australien Anthony Albanese. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a profité de la rencontre pour remercier le président Herzog pour le réconfort et la solidarité qu'il a apporté à la communauté juive de Sydney suite au massacre du 14 décembre. Évoquant ensuite la situation au Moyen-Orient, le Premier ministre australien a déclaré que, je le cite, « Nous y aspirons à la paix et souhaitons voir Israéliens et Palestiniens vivre côte à côte dans la paix et la sécurité ». Isaac Herzog a confessé de son côté que son voyage en Australie avait été très émouvant. Il a également souligné que sa visite a offert l'opportunité de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays et de les orienter vers un avenir meilleur. Je pense que nos relations ne reposent pas uniquement sur la question israélo-palestinienne, mais sur des fondements beaucoup plus larges, a-t-il estimé. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Une nouvelle pause dans ce journal, il est 11h49 et dans un instant, nous verrons ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Bilboquet Plage au 26 46 60. Retrouvez la mini-carte spéciale Saint-Valentin sur la page Facebook Le Bilboquet Plage.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme. À visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénébig, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
Actualité judiciaire d'abord avec la mise hors de cause des gendarmes dans l'affaire Traoré. En 2016, ce jeune homme de 24 ans était décédé quelques heures après son arrestation et les gendarmes présents au moment des faits avaient été déférés devant la justice. 10 ans plus tard, ils sont définitivement mis hors de cause par une ultime décision de la Cour de cassation. C'est donc un soulagement pour eux, explique le général Lizuré, ancien directeur de la gendarmerie nationale.
Ils sont dans une période de soulagement parce que c'est jamais très agréable d'être mis en cause dans une affaire judiciaire. Et donc cette décision vient clore l'ensemble du processus et détermine qu'il n'y a pas eu de faute dans l'exécution de leur mission.
La famille d'Amada Traoré annonce qu'elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme en attaquant l'État. Les gendarmes étant définitivement blanchis, l'État est le seul à pouvoir désormais être attaqué. Autre procès, celui d'un tueur à gages de 14 ans. Il comparaît devant le tribunal pour enfants de Paris pour avoir tué d'une balle dans la tête un chauffeur de VTC en 2024. Cet adolescent avait été recruté par la DZ Mafia à Marseille. Le deuxième jour de son procès a été consacré à cette fameuse journée du 4 octobre 2024. Récit des faits avec Alexis Bourdon pour Europe 1.
Pendant de longues heures, les derniers instants de la vie de Nessim Ramdane sont décortiqués de manière précise, voire chirurgicale. 27 minutes très précisément, c'est le temps passé par le mineur dans le véhicule de la victime avant de lui tirer une balle dans la tête. Beaucoup de questions restent en suspens. Qu'est-ce qui a déclenché le drame? La victime avait-elle tenté de raisonner? Le garçon recruté comme tueur à gages, Maître Santana Marc, avocate de la partie civile.
Il y aura toujours et il restera toujours des zones d'ombre. C'est clair. De toute façon, il n'y a que la version du mineur parce que Nessim n'est plus de ce monde. Mais en tout cas, on avance vers une vérité judiciaire parce que c'est celle qui permettra demain au tribunal de rendre une décision avec une peine que nous espérons exemplaire.
Vous l'aurez compris, cette deuxième journée d'audience a été très lourde, très difficile à vivre pour les membres de la famille de Nessim Ramdane. Sa compagne et son frère sont sortis éprouvés, le visage fermé et le regard dans le vide. Le jugement est lui attendu au plus tôt demain, en fin de journée.
Justice, toujours avec une décision dont dépendra l'avenir politique de Marine Le Pen. Le procès en appel des assistants parlementaires du Front National s'est refermé la nuit dernière pour nous. Le parquet a requis 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité contre la chef de file du Rassemblement National. Si cette peine est confirmée, elle empêcherait Marine Le Pen de se présenter à la prochaine présidentielle, même si elle se pourvoit en cassation. Ses avocats ont, eux, plaidé la relaxe. L'un de ses conseils s'interroge d'ailleurs sur les lourdes réquisitions, tout en saluant un procès serein.
La Cour prendra le temps qui lui est nécessaire. Devant cette juridiction, nous avons pu développer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'écoute, un certain nombre de problèmes et qui devront être tranchés.
Et il faudra être tranché, mais pour cela, il va falloir attendre puisque la Cour d'appel rendra son arrêt le 7 juillet prochain. L'actualité en métropole, c'est aussi cette nouvelle polémique concernant France Télévisions. La commission d'enquête parlementaire sur la neutralité et la gestion du service public poursuit son travail, mais on a appris qu'une information judiciaire pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux a été ouverte à l'encontre de la directrice de France Télévisions, de la direction pardon, de France Télévisions et de sa présidente Delphine Ernotte. En cause, une note astronomique pour un séjour dans un hôtel de luxe pour le Festival de Cannes en 2023. La facture s'élève à un peu plus de 110 000 euros, c'est-à-dire 13 millions de francs. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
L'hôtel Le Majestic à Cannes, un palace 5 étoiles vu sur la Croisette à 1 700 euros la nuit. Coût total pour les 4 directeurs de France Télévisions, 112 000 euros. La chaîne publique se justifie. Pas un euro d'argent public n'a payé cet hôtel. En réalité, Delphine Ernotte a utilisé la pratique du barter, c'est-à-dire qu'une société privée a réglé la note en échange d'espaces publicitaires gratuits sur France 2. Et sur le choix de l'hôtel, la réponse est simple. La direction séjourne dans cet établissement depuis plus de 25 ans à l'occasion du Festival de Cannes. Et des explications qui n'ont pas convaincu certains membres de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Delphine Ernotte n'a pas le droit d'accepter des cadeaux personnels en échange de services fournis par France Télévisions, glisse l'un d'entre eux, qui conclut « Je pense qu'elle tombera avec cette affaire, elle commence à avoir trop de casseroles ».
Il est 11h54, la dernière pause de ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et de belles médailles aux JO d'hiver pour la délégation française. On se retrouvera ensuite pour les Jeudis de l'économie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et si l'on dressait la liste de toutes les choses géniales? Interprété par Stéphane Dora, ce spectacle ouvrira la saison du Théâtre de Lille le samedi 28 février et le dimanche 1er mars à 18h. Toutes les choses géniales, venez voir ce spectacle sensible et lumineux sur la résilience et le sens de la vie. Rendez-vous au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
Jusqu'au 14 mars, à suivre et vivez le tournoi Destination 2026 sur Radio Rythme Bleu avec Elia by OPT. Rendez-vous sur notre site elia.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. Elia, au cœur de toutes les collections.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer d'abord par les Jeux Olympiques d'hiver avec cette sublime journée pour l'équipe de France à Milan-Cortina, Lionel Sabot. Les Bleus ont décroché 4 médailles, dont 2 en or.
Oui, sublime journée en effet. Et la Marseillaise qui a retenti à 2 reprises. Une première fois sur le site olympique d'Anter Selva, avec beaucoup d'émotion au biathlon pour Julia Simon. Médaille d'or autour du cou qui a savouré son titre olympique dans l'épreuve du 15 km individuel avec un 19 sur 20 au tir. La Savoyarde de 29 ans qui a devancé une autre Française, Lou Jean Monod, plus rapide au ski mais moins adroite au tir. Récemment condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 1 mois de suspension pour avoir utilisé la carte bancaire de l'une de ses coéquipières, Julia Simon a tourné la page et retrouve toutes ses sensations.
Je me suis jamais affolée, je suis pas du tout stressée sur ces jeux, je prends un kiff énorme. J'ai très bien skié, c'est l'un des plus beaux jours sportifs de ma vie. Et voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce rêve.
Une médaille d'or et une médaille d'argent en biathlon. Une médaille d'argent en biathlon, c'est ça. Médaille d'or également tôt ce matin pour nous. J'écris n'importe quoi. En patinage artistique, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron ont été sacrés champions olympiques de danse sur glace. Véritable exploit pour ces deux athlètes qui patinent ensemble depuis à peine un an. Pour Guillaume Cizeron, il s'agit d'un deuxième titre olympique 4 ans après celui remporté avec sa précédente partenaire, Gabriela Papadakis. Un fait d'armes inédit dans le patinage. Les Français qui ont devancé les Américains Madison Cox, Evan Batt et les Canadiens Pierre Gilles et Paul Poirier. Dernière médaille du jour en ski de bosse cette fois-ci. 8 ans après son titre olympique, Perrine Laffont s'est offert le bronze à Milan. La Française blessée au genou au mois de décembre a été qualifiée de justesse pour la finale. Forcément, elle a fondu en larmes sur la 3e marche du podium.
Je suis passée pas loin de la correctionnelle, je crois. Mais elle vaut tellement cette médaille. J'étais blessée il y a encore un mois et demi et là, aller la chercher avec mes proches, ma famille, je suis tellement heureuse.
Et avec ces 4 nouvelles médailles, la France est désormais 6e au classement des médailles avec 7 médailles, 3 d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. C'est la Norvège qui domine le classement avec 7 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze.
Un mot de football féminin avec ce matin les barrages allés de la Ligue des Champions. Le Paris FC s'est incliné 3-2 à domicile face au Real Madrid. Le match retour pour les Parisiennes, ce sera dans une semaine. Et puis on va terminer avec un mot de sport dans la région. On continue de suivre les jeunes Calédoniens qui participent aux Océania de cyclisme sur piste.
La compétition qui se déroule en Nouvelle-Zélande. On va rappeler qu'ils sont 5 coureurs à avoir fait le déplacement. Chacharé et Kyrian Moutry, mais aussi Enzo Martoreggio, Hervé Salin et Kéril Moutry. Hier, Chacharé et Kyrian Moutry se sont respectivement classés 15e et 17e de la course à élimination chez les moins de 19 ans.
Merci Lionel, c'est la fin de ce journal à 11h58. Et dans un instant, restez bien avec nous. Nous ouvrons les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu pour nous pencher sur l'année 2025.